voix nue. Cette semaine, Leïla Djitli rencontre Jean-Paul Gaultier. Ce soir, les faubourgs d'Arcueil-la-Rouge et le corset de ma grand-mère.
Jean-Paul Gaultier, bonsoir. Vous avez remarqué que j'ai dit Gaultier,
hein? C'est vrai.
Voilà.
Mais écoutez, il y a un L, je pense qu'il faut quand même le prononcer. Donc, il sert bien à quelque chose parce qu'il y a des Gaultier, G-A-U-T-H-I-E-R. Ce n'est pas moi. Il y a des Gaultier tout bête, eux qui n'ont ni H, ni L et tout, et moi avec un L, donc l'L on le prononce.
Voilà.
Mais ça fait Gaulle, quoi, c'est avoir la Gaule, être de Gaulle, de la Gaule, voilà.
Absolument.
Tout ce qu'on veut.
Et je voulais vraiment pas vous fâcher d'entrée de jeu, donc j'avais plutôt même envie de me mettre bien avec vous, donc prononcez bien votre nom. Et je voulais vous remercier de nous recevoir dans votre immeuble, dans cette maison qui est absolument magnifique, qui se trouve rue Saint-Martin. L'adresse est connue. Donc, entre Réaumur-Sébastopol et Strasbourg-Saint-Denis,
exactement.
On est dans un absolument magnifique immeuble qui a une histoire que vous nous raconterez à un moment donné, peut-être au quatrième ou cinquième épisode, parce que déjà, dès qu'on arrive, on voit les lettres ADP, vous nous raconterez ce que c'est.
Au futur du prolétariat.
Voilà, donc c'est extraordinaire, c'est une histoire à la Gaultier, votre immeuble. Et alors, donc je voulais vous présenter assez brièvement, parce que je voudrais qu'on prenne le temps pour revenir sur toute cette trajectoire, sur toute votre histoire. Je voulais quand même dire que vous êtes sûrement le couturier français le plus populaire, le plus successful, que tout le monde connaît. On sait l'homme à la marinière, c'est le personnage de Querelle de Brest, de Jean Genet. On vous identifie très vite grâce à ce personnage dont vous vous êtes emparé, en fait. Il y a ces fameux corsets avec des seins qui pointent, des seins pointus. Et puis, vous avez habillé les hommes avec des vêtements de femmes, vous habillez les femmes avec des vêtements d'hommes. Et puis, j'ai envie de dire aussi que vous avez, avant tout le monde, peut-être donné corps à ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie du genre. Et je voudrais qu'on commence en regardant dans le rétroviseur tous les deux.
Oui.
Ça commence du côté d'Arcueil.
D'Arcueil. Ce que je pourrais dire quand même, déjà pour un petit peu revenir à ce que vous avez dit juste là, c'est que, si vous voulez, quand vous avez dit un terme, je ne sais plus, genre, je l'ai pris, je m'en suis servi. En vérité, je n'ai rien fait par comme but. Ça n'a jamais été un calcul. Ça s'est toujours fait comme ça, parce que ça devait être comme ça, je pense. Ce sont les événements, les choses, les circonstances qui m'ont fait plutôt porter cela que cela et montrer telle chose parce que plein de raisons. Ça n'a jamais été un but pour une carrière. Vous voyez, j'ai jamais pensé en plan de carrière. Ça s'est fait avec moi, malgré moi, en moi.
Mais ce personnage vous a tapé dans l'œil. La marinière.
La marinière, mais ça vient aussi de l'enfance, parce que d'un seul coup, j'avais des petits t-shirts rayés qui n'étaient pas exactement celui-là. Et puis, peu à peu, puis j'allais beaucoup aux puces, par exemple, aux puces, et j'ai vu ceux de la marine française qui étaient très jolis, très graphiques et tout, et donc que j'ai acheté et que j'ai porté. Je me suis dit que c'était bien porté de différentes façons, puis après, j'ai essayé de faire les miens, voilà, et de les porter d'une autre façon. Et puis après, bien sûr, il y a eu Fassbinder avec le film quand même qui m'a évidemment marqué, qui était assez sublime. Et j'ai fait une collection, d'ailleurs, c'est assez drôle, cette collection qui était la collection dadaïste. Alors ça veut dire des mélanges comme ça un peu incongrus, des choses qui ne se mettent pas ensemble et qui étaient là, des détournements, c'était un petit peu tout ça. Et dans cette collection-là, il y avait à la fois les marins de Querelle de Brest et il y avait, pour la première fois, les robes corsets. Mes robes corsets, c'était pas des bustiers comme j'avais fait auparavant, c'était des robes entières, des robes corsets.
Quelle époque c'était ça?
Ça, c'est en 81, je crois.
D'accord.
C'est 81, 82. Je ne sais plus, parce que vous savez, entre la date à laquelle on commence à y réfléchir et puis la date à laquelle ça sort, et la date à laquelle c'est destiné, c'est tout à fait différent. Ça fait un an de différence, quoi.
Alors, Jean-Paul Gaultier, est-ce qu'on peut repartir un peu du côté d'Arcueil, donc cette petite ville de la petite couronne, on appelait la petite couronne.
Banlieue sud.
Banlieue sud.
Arcueil-Cachan, station de métro.
La Vache Noire,
la place, la rue Pasteur, la rue où il y avait ma grand-mère, le HLM Émile Raspail, tout près de l'école Jules Ferry, et en face de la mairie, d'Arcueil, qui était, je ne savais pas ce que c'était exactement une mairie, mais tout au moins qui était une jolie bâtisse, dont il y avait Jean Telet, qui était le fils du gardien de la mairie, quoi, du concierge de la mairie. Et on croyait qu'il habitait là parce que c'était, voilà, c'était un fils de prince ou quelque chose comme ça.
Donc c'était votre copain d'école, Jean?
Oui, on s'est retrouvés. Alors j'ai des souvenirs très précis de lui parce que, évidemment, il était déjà très très grand et très très roux, avec des taches de rousseur. Et je pense que c'est lui qui m'a marqué pour qu'à chaque fois dans mes collections, il y ait un ou deux ou trois ou quatre ou même plus mannequins roux, que ce soit garçon ou fille. Parce qu'en fin de compte, c'est ça, c'est déjà mon début à aimer les différences. C'est-à-dire que lui, par sa rousseur, et en plus de ça, j'ai appris par la suite que les roux étaient quelquefois maltraités ou mal vus, alors que moi, je trouvais ça absolument superbe. Et de plus, il dessinait merveilleusement bien. Par la suite, il a fait d'ailleurs une bande dessinée, Banlieue Sud, qui s'appelle Banlieue Sud. Mais il dessinait à l'époque, moi qui dessinais seulement des femmes ou des danseuses des Folies Bergères, lui dessinait par contre des chevaux, des voitures, des avions, des paysages. C'était vraiment, il savait merveilleusement dessiner. Donc j'avais beaucoup d'admiration pour lui.
C'est quand même intéressant d'avoir gardé un contact avec un copain de jeunesse, parce que ça raconte quand même quelque chose de vous, ça, d'avoir gardé comme ça.
Je crois que j'ai fait un peu préparer avec tous les gens qui ont marqué, sauf ceux qui ont disparu parce qu'ils sont morts. Mais sinon, j'ai gardé quand même un contact en général avec plein de gens qui ont fait mon parcours, vraiment.
J'ai envie de savoir quel gamin vous étiez, puisqu'il faut que vous me racontiez un peu vos parents, ouais. et ce HLM du groupe...
Voilà. Émile Raspail, groupe Émile Raspail, HLM. Alors, j'avais très honte de ça, parce qu'avant, j'habitais rue Berthollet, à Arcueil toujours, et ma grand-mère avait un petit appartement, donc rue Pasteur, là, qui était très joli, tout en haut. En bas, il y avait un boulanger. Sur le côté, il y avait le charcutier et tout... un peu traiteur et tout, c'était très joli, ça me faisait beaucoup rêver. Et on a changé donc de la rue Berthollet, qui était un tout petit appartement où il y avait qu'une seule chambre et une grande cuisine, et on est allé donc dans l'HLM. Mais moi, j'aimais pas l'HLM, je sais pas pourquoi, et le terme d'HLM, c'est, pour moi, c'était vraiment très...
Vous dites H&M, mais pas HLM.
Oui, voilà, HLM,
c'est une marque,
oui, comme
une
espèce... mais oui, mais c'est ça, mais c'est une espèce de lapsus, en plus, mais assez révélateur, en fin de compte. C'est-à-dire que j'aimais pas du tout, parce que je trouvais pas ça très joli, je trouvais pas ça aussi joli que l'appartement de ma grand-mère. Pour moi, c'était comme une espèce de régression absolument absurde, et ça me gênait, et je disais bâtiment du groupe Émile Raspail, bâtiment 1, escalier G. Voilà. En plus, G, Gaultier, pareil, le même escalier. Mais j'aimais pas du tout cette idée-là. C'est-à-dire, c'était un changement, alors que c'était plus grand, c'était un appartement qui était plus grand. Donc milieu plutôt modeste, mes parents. Je sais qu'on avait du mal à boucler, enfin ils avaient du mal à boucler les fins de mois. Je crois que mon père était quelqu'un qui aimait bien dessiner, qui était comptable. Je ne sais pas si c'était un brillant comptable, en tous les cas, parce que ce qui reste de moi, de cette notion-là de comptabilité, je dois dire que... Là aussi, c'est un peu comme le HLM Émile Raspail, je l'ai fait, oui, c'est au-delà de mes forces. Et donc, c'était une commune communiste.
Arcueil-la-Rouge.
Oui, Arcueil-la-Rouge, voilà, et Cachan, qui était plutôt socialiste, par contre. Et je me souviens quand même qu'une fois, j'étais revenu de l'école, alors il y avait le directeur, monsieur et madame Tapp, Madame Top, qui n'existe plus d'ailleurs, monsieur, et il tapait personne, hein, entre parenthèses, non. Mais par contre, je me souviens qu'une fois être revenu de l'école où monsieur Top avait parlé, et je racontais à mes parents ce qu'il avait dit. Et mes parents avaient dit, ah, mais ça, c'est pas bien, parce qu'il fait vraiment de la propagande communiste, il n'a pas à faire de propagande aux élèves et tout, il n'a pas à faire ça. Voilà. C'était pas que mes parents étaient contre, parce que mes parents étaient plutôt, sans être vraiment politiques, mais socialistes, on va dire, d'idées très ouvertes et au contraire très libéraux. Et justement, bien qu'étant très libéraux, ils trouvaient qu'on ne devait pas aux enfants infliger comme ça des tendances déjà politisées et les mettre sur des rails, ce genre de rails.
Donc votre père comptable et votre mère ?
Elle était caissière au restaurant d'une administration de la Caisse des dépôts et consignations. Donc elle était caissière. Alors ce qu'il y a, c'est que par la suite, ça a été assez drôle parce que moi j'étais au lycée. Alors d'abord, j'ai été d'abord à l'école Jules Ferry, après... c'était lycée Paul Bert à Cachan, et après le lycée François Billon, qui était à Paris, à la Porte de Vanves.
Oui, dans le 14e.
Exactement, dans le 14e. Donc, j'étais pas trop loin. Mes parents auraient voulu que j'aille à Sceaux, parce que, paraît-il, c'était le meilleur lycée, etc. Où il y avait Julien Clerc, paraît-il. Mais ça, on le savait pas, parce qu'il n'était pas connu encore. Mais, en fin de compte, j'ai pas fait mon entrée à Sceaux, et je suis allé, parce que j'étais peut-être trop sot, c'est possible, et je suis allé, par contre, à François Billon. Et là, c'est drôle, parce que tous les midis, j'allais quand même en Solex, manger au restaurant et je parlais avec ma mère. Voilà, c'était pour être près de ma mère ou quelquefois de ma grand-mère.
Donc justement, donc vos parents, vous dites que c'était des gens très très ouverts,
oui.
Qui vous ont, vous êtes fils unique, hein.
Oui, fils unique. Voilà. Donc ça veut dire très solitaire, mais vivant bien. Quand on me demande est-ce que ça vous a manqué, absolument pas. Au contraire, je dois dire que, au contraire, vais-je dire, parce que du coup j'ai eu l'habitude d'être seul, mais j'étais pas vraiment seul parce que d'une part j'écoutais, j'entendais, je parlais avec ma grand-mère, je découvrais des choses chez elle, j'écoutais, je parlais avec des adultes. Alors je devais être un petit gamin qu'en fin de compte j'aimerais pas du tout voir. J'aime bien les petits gamins qui sont très rigolos et tout. Moi je devais être un petit peu. Mais en fin de compte j'ai vu quand même une fois une vidéo de moi gamin en train de parler, j'étais étonné comme j'étais très joyeux quand même. Je vais avoir ça de mon père qui était vraiment quelqu'un de très très joyeux.
Pourquoi vous dites vous un gamin qui n'était pas
Je devais être très ennuyeux parce que en fin de compte j'aimais pas les autres gamins. C'est pas que je les aimais pas. Disons que je me sentais mal à l'aise avec les autres gamins n'ayant pas, ou plutôt je me sentais beaucoup mieux avec les filles. Mais les garçons, je me sentais très rejeté du fait que je jouais pas au foot, pas du tout. Et du coup, j'étais même rejeté. Oh, Jean-Paul Gaultier, ouais, dans notre équipe, ah non, surtout pas. Voilà, le peu de fois où j'ai joué, évidemment, je me trompais dans quel camp il fallait tirer. Quand j'arrivais à toucher la balle, j'allais dans le sens inverse. Bon, évidemment, j'étais un peu exclu, quoi. J'étais bon en dessin et bon en chant. Bien qu'après, par la suite, j'étais très mauvais en chant. Enfin, ouais. C'est plutôt ces activités-là où j'étais bien.
Et quelle ambiance il y avait chez vous? Parce que vous parlez de vos parents étaient très proches de vous.
Très proches et très proches entre eux. Très, ouais. Vraiment, c'était, je dois dire, j'ai eu vraiment beaucoup d'amour. Et c'est équilibré un peu avec ce qui se passait en classe, à l'école. Mon père était plus, si vous voulez, était assez doux. C'était lui plutôt qui était là pour faire plaisir à ma mère, s'occuper d'elle, la choyer, faire danser. Enfin, il était très joyeux, il peignait un petit peu, comme ça. J'ai gardé d'ailleurs un ou deux dessins de lui. En général, c'était des oiseaux, des petits paysages, des choses comme ça. Et puis, j'allais le week-end chez ma grand-mère. Parce que comme mes parents n'avaient pas... ma mère travaillait, mon père aussi, donc. Et... Donc le mercredi soir, j'allais chez ma grand-mère, le jeudi, j'étais chez ma grand-mère, je revenais le vendredi chez mon père et ma mère, et le samedi, j'étais à nouveau chez ma grand-mère, avec mes parents, et le dimanche aussi, avec ma grand-mère. Parce que ma grand-mère, elle était infirmière, elle faisait à la fois, comment dit-on ça, du magnétisme, qui n'était pas reconnu du tout, et toujours pas d'ailleurs par les médecins, je crois. Et elle, au contraire, j'ai vu des choses assez extraordinaires se passer, elle momifiait des oranges. Et des côtelettes, je les ai vues vraiment, mais c'était comme vraiment comme des momies, c'était de la pierre dure, quoi. La côtelette était dure et pas pourrie du tout. Et l'orange coupée en deux ou la clémentine devenait dans une couleur comme caramélisée, ça par apposition des mains. Et elle faisait quelquefois des gaz sur lesquels elle mettait ses mains et certains guérissaient comme ça. Et alors donc, elle me faisait aussi, et quand il y avait à me faire des piqûres, elle me les faisait, mais elle faisait aussi des piqûres. Donc, quelquefois, elle se déplaçait et allait voir des clientes à l'extérieur, et elle en recevait chez elle. Mais chez elle, ce qui est formidable, elle leur parlait, elle leur faisait des masques de beauté, elle leur mettait de l'eau de fleurs d'oranger et tout. Enfin, avec, je me souviens des bouteilles qui étaient violettes et tout ça me faisait rêver, quoi. C'est-à-dire qu'elle leur donnait des conseils aussi, comme quoi il fallait peut-être changer de coiffure. Quand elle sentait qu'il y avait des problèmes avec le mari. Moi, j'entendais tout ça, j'avais 9 ans. Et j'entendais cela et je les dessinais. Alors, je les dessinais avant et après. Comme elles étaient et après, comme je les voyais. C'était le avant, après, comme je voyais dans les journaux que lisait ma grand-mère. Alors, les journaux, c'était Ici Paris, ou alors des livres de médecine, ou alors le Ici Paris, le France Dimanche, enfin...
Mais on imagine une ambiance incroyable chez cette grand-mère, en fait.
Oui.
Et on imagine une dame... Vous voyez, quand je vous entends parler de cette grand-mère, je l'imagine un peu comme une Madame Rosa
C'est tout à fait ça. Mais exactement ça, c'est l'image parfaite. C'est exactement ça. Ça se trouve que ce film que je trouve fabuleux, c'est un chef-d'œuvre total, absolu. C'est exactement ça pour la conciliation de tout. Et d'ailleurs, par rapport justement au racisme et tout, mes parents, c'était assez extraordinaire parce que je me souviens que ça, c'était un petit peu plus vieux. On avait vu un film qui s'appelait « Devine qui vient dîner ce soir » avec Sidney Poitier, qui parlait d'une jeune femme qui américaine, donc, qui amenait son petit ami américain, le présentait à ses parents, qui étaient blancs et lui était noir. Donc, le conflit que ça faisait, etc. Et je me souviens que j'avais vu le film avec eux et je leur avais dit « Et moi, si j'arrivais avec une petite amie noire, qu'est-ce que vous diriez ?»« Oh, ben, si vous vous aimez, ça va très, très, très bien. Aucun problème. Aucun problème. Du moment, c'est l'amour qui est important. » Et des années après, quand je suis revenu, mais là, avec un garçon, ma mère, première question, « Vous vous aimez ?»« Oui. » Eh bien, Parfait, ça va très bien comme ça. Donc ils étaient vraiment comme ça. Donc moi, quand j'ai commencé après par la suite dans la mode, et même je ne voyais pas le monde avec comment avec du racisme. Je savais pas que ça existait. Si je l'avais vu dans le film là, mais au moins alentour de moi, je ne ressentais pas du tout cette notion là. Et j'étais assez étonné quand après j'ai eu en effet mon premier ami et mannequin qui était noir et que elle, je voyais son attitude quelquefois qui ressentait le racisme. Peut-être que là où moi je ne le percevais pas, ou alors quelquefois je me suis rendu compte en effet qu'elle avait tout à fait raison, qu'il y avait réellement un vrai racisme qui existait.
Ça, c'est vraiment quand même
rare, parce que à cette époque-là, c'était.
C'est un atout. Enfin, d'avoir des parents
comme ça aussi ouverts.
Ouais.
Ça, c'est extraordinaire. Ouais. J'ai vraiment bénéficié de cela.
Parce que vous décrivez une époque quand même. Là, on est dans les années 60.
Voilà, c'est-à-dire que moi, je suis né en 52, donc on est fin 50 et toute la période 60 où j'étais encore chez mes parents.
Voilà,
et...
c'est le président, c'est de Gaulle.
Voilà.
Donc c'est toute une ambiance quand même assez traditionnelle quand même.
Complètement,
hein,
complètement. Eh bien, écoutez, je n'ai absolument pas ressenti là. Et là, c'est pas une affabulation, c'est ce que j'ai vu réellement. Et ma grand-mère travaillait un moment dans une usine qui s'appelait Krikézivi. Les noms me reviennent maintenant, les trucs les plus anciens me reviennent. Ça, c'est l'âge qui fait ça. Et donc, Krikézivi qui était sur le bord... Ah oui, parce qu'il y avait toujours ce fantasme quand même de Paris avec la porte d'Orléans. Ça, c'est vrai, parce qu'on était à Arcueil, mais il y avait quand même ce côté, le samedi, quelquefois, on allait à Paris, on passait et on faisait, comment ça s'appelle, la rue d'Alésia,
la rue du Général Leclerc.
Et tout, Général Leclerc, l'avenue Général Leclerc, avec comment, justement, Alésia, et puis après, d'Enfer Rochereau.
Oui,
alors, on allait jusqu'à d'Enfer, on faisait l'aller et le retour comme ça, où on rêvait devant les boutiques, parce qu'en fin de compte, mes parents, à pied.
Ah, oui.
Mais mon père, à un moment, quand même, a eu une petite deux chevaux, verte, très jolie d'ailleurs, avec le toit comme ça qui se déroulait et tout. Et on allait, il n'allait pas jusqu'au bout, il voulait pas se garer, donc il se garait juste à la limite, juste là où il y avait le périphérique.
D'accord. Donc vous savez pas comment ils se sont rencontrés?
Je me demande si ce n'est pas en usine, justement, parce que ma mère peut-être devait travailler là, dans cette usine, à faire je ne sais pas trop quoi, peut-être à la comptabilité. Et mon père était comptable, donc aussi peut-être ça, peut-être qu'ils étaient tous les deux à la comptabilité, ou je ne sais pas ce qu'elle faisait. En tous les cas, il y avait ma grand-mère. Ou si ce n'est pas mon père qui a connu ma grand-mère, et ma grand-mère, donc, et de ce fait, ils se sont connus comme ça.
Et tout le monde s'entendait bien parce que...
Tout le monde s'entendait bien.
Parce que votre grand-mère, elle vous a...
Très autoritaire, par contre.
Elle était très autoritaire. Elle vous a adopté, en fait. Hein.
Ah, c'est ça. C'est-à-dire que pour moi, c'était beaucoup mieux d'aller chez ma grand-mère que chez mes parents. Elle avait la télévision. Première chose très importante pour moi, qui m'a beaucoup marqué, la télévision. Et puis, c'était plus étrange chez elle. Et puis, j'étais le petit roi, quoi. En fin de compte, c'était ça. C'est-à-dire que tout ce que je faisais, tout était excusé. Toutes les erreurs que je faisais, toutes les choses à découper ses rideaux pour après habiller mon ours. Tout ça, elle trouvait ça très bien. Au contraire, elle était ravie de tout ça. Et du coup, après, mes parents, quand même, à un moment, se disaient, surtout ma mère, disaient quand même, là, c'est pas bien. D'ailleurs, il y avait une chose qui s'était passée, c'est que, à un moment, là, c'est plus tard, à un moment où ma grand-mère, elle vieillissait, mais il y avait par contre l'appartement en dessous de chez elle qui s'est libéré, et donc c'était possible que mes parents viennent là. Même ma grand-mère aurait peut-être payé le supplément et tout, si mes parents n'avaient pas eu assez d'argent pour pouvoir payer la mensualité de l'appartement. Non, ils ont préféré le HLM et tout, voilà. Et ça, ma grand-mère en leur a beaucoup voulu. Et moi, un petit peu aussi, je dois dire.
Ah.
Parce que, parce que j'aurais été tellement heureux d'être avec ma grand-mère tout le temps, mais j'aurais été tout le temps. Et en plus, mes parents devaient se rendre compte que peut-être il y avait certaines choses vers lesquelles j'allais, que peut-être c'était pas tout à fait ce qu'ils rêvaient.
Ils avaient envie de freiner un peu.
Voilà, par exemple, l'histoire de l'ours avec les seins coniques, eh ben, c'est parce que je voulais avoir une poupée. Ma grand-mère m'aurait tout à fait offert une poupée, mais par contre...
Vous l'avez eu quand, cet ours? Alors,
j'ai eu très tôt, ça je l'ai eu il y a quand j'avais, je sais pas, 3 ans, 4 ans, 3
ans. C'était votre doudou?
Oui, c'était ça, mais après, peu à peu, il est devenu mon cobaye total, c'est-à-dire que c'est à lui, c'était le premier ours transgenre, d'ailleurs, auquel j'ai mis les premiers seins coniques. Je l'ai fait avant Madonna, avant ma propre collection, justement, d'Adaïs, où j'avais fait les robes corsets. Si vous voulez, dans les journaux, je voyais des choses, genre, des soutiens-gorge à acheter, des choses... Dans le France Dimanche, il y avait des publicités qui étaient généralement en noir et blanc. Et on voyait, alors des seins pointus, c'était l'époque des pin-ups, vous voyez,
oui,
à peu près.
Vois,
donc il y avait les seins un peu pointus. Donc moi, j'ai essayé de refaire un sein comme ça, avec du carton que j'ai épinglé à mon ours.
Et puis il y avait des combinaisons, on portait des combinaisons.
Ma grand-mère, alors une histoire très drôle par rapport à ma grand-mère, alors justement, alors ça, c'est une anecdote-là, je l'avais oubliée, c'est ma grand-mère qui, elle-même, était habillée tout le temps en noir, parce qu'elle avait été en deuil de son mari, mais avant, elle était en deuil de sa mère, en deuil de, toujours de quelqu'un. Elle mettait d'abord des combinaisons en satin, et puis elle mettait un pull par-dessus, et elle allait enfiler sa jupe. Et puis d'un seul coup, elle se rendait compte qu'il était très tard. Du coup, comme il était très tard, ben, elle oubliait de mettre sa jupe. Donc elle partait avec son manteau, elle se mettait le manteau, et elle allait voir. Et moi, je voyais ça, mais je ne lui disais pas, parce que ça m'amusait beaucoup qu'elle parte avec sa combinaison de satin. Donc apparaissait en bas le satin avec un peu de dentelle en bas, un gros satin bien raide et tout, et je trouvais ça très joli. Et c'est pour ça, après, évidemment, que j'ai ressorti aussi de porter la combinaison, mais alors là, sans pull par-dessus, carrément portée comme une robe.
Mais on imagine cette grand-mère vous aimait tellement, mais on se dit pourquoi est-ce qu'elle a mis tout cet amour sur vous ? Quelle était sa vie au fond de cette grand-mère ?
Sa vie a été un petit peu toujours au service des autres. Je crois que c'est quelqu'un qui était assez avec cette notion aussi d'un peu de sacrifice et tout. Hein. Le premier mari, je crois, avait 20 ans de plus qu'elle. Et comment ils ont eu une fille qui s'appelait Solange et qui est morte pendant la guerre de 14. Alors d'abord, son mari est mort pendant la guerre. Je n'ai jamais su pourquoi, parce que je n'ai jamais posé la question. Mais il est mort. Et quelques années après, la fille est morte aussi. C'est-à-dire que Solange est tombée d'un escalier, elle s'est cassée la colonne vertébrale, et c'était pendant la guerre, donc c'était impossible de la soigner. Ma grand-mère était à la fois, elle était quelque part, mais je sais, j'ai retrouvé même des lettres, en fouillant dans les armoires de ma grand-mère, des lettres que sa fille lui arrivait à lui écrire. Alors, je ne sais pas, en ayant la colonne vertébrale, mais elle arrivait quand même à écrire. Ou est-ce que c'était écrit par quelqu'un d'autre ? Non, je crois parce qu'il y avait la signature avec un cœur que j'ai imité d'ailleurs par la suite. Parce que voyant que ma tante, donc ma demi-tante, on va dire, parce que ça serait la demi-sœur de ma mère. Oui, parce que ce n'est pas le même père par la suite.
D'accord.
Puisque mon grand-père est mort juste avant elle.
D'accord.
Donc, l'autre enfant a été d'un autre personnage assez intéressant, d'ailleurs. J'en parlerai après. Mais alors, déjà, ma tante, donc, elle était, j'ai vu des photos d'elle, des photos, justement, alors qu'elle était dans le lit et tout, avec une espèce de chemise avec un col blanc, volonté, le cheveu avec une barrette, le cheveu très long, comme ça et tout, comme une poupée qu'elle avait. Il y avait une poupée d'elle qui était très belle aussi, avec ses cheveux comme ça, un peu crantés et tout, dans un châtain, un peu blond vénitien châtain. Et donc, elle entretenait une correspondance avec ma grand-mère, donc que j'ai lue. Et je me souviens que, voyant cela, j'ai compris que, en ayant une ressemblance avec ma tante, hein, en disant certains mots que j'avais lus, des choses comme ça, que ma grand-mère m'aimerait encore plus, et en quelque sorte qu'elle allait faire comme une espèce de transfert avec moi, avec sa fille. J'ai compris ça comme ça, étant gamin, mais très jeune,
en fait,
très jeune.
En fait, vous voulez consoler cette grand-mère, finalement.
En quelque sorte. Mais je crois que c'était très égoïste, parce qu'en fin de compte, c'était aussi à la fois la consoler, mais pour être plus proche d'elle, et puis qu'elle m'aime encore plus, quoi, c'est ça.
Mais vous avez, en fait, finalement, appris quelque chose chez elle qui vous a construit après.
Totalement.
Donc vous avez fabriqué votre rêve de mode chez cette grand-mère.
Écoutez, je vais vous dire déjà ça, je vais vous dire même d'une chose, une autre indiscrétion, on va dire, c'est que j'avais remarqué, par exemple, mon grand-père, lui, était un personnage aussi assez fabuleux. Mais hélas, que je n'ai pas, disons, été assez malin pour aussi...
Ah, pour le choper, pour le
oui, bon, voilà, parce qu'il il était parti à l'âge de... Il était du Lot-et-Garonne, le fils d'un monsieur qui avait une usine, paraît-il, de bouchons en Liège... Mais qui a fait faillite, enfin bon, et tout. Et je sais qu'il était parti, donc très tôt, mais donc à 18 ans aussi, il était parti aux États-Unis, seul. Comme ça, aux États-Unis, vous vous rendez compte, au début du siècle, ou fin du siècle d'avant, ou tout début. Il était resté 2 ans aux États-Unis, après il était allé en Angleterre, où il a failli devenir pasteur. Donc assez incroyable quand même, comme aventure, non ? Et il est resté 12 ans en Angleterre, et donc il parlait anglais. Et puis, je me souviens de la fois où je lui avais dit « Et comment tu dis ça en anglais, Pépé ?» Et lui, il me l'a dit en anglais, et moi, je me suis mis à rigoler, parce que ça me faisait rire. Au lieu de répéter, d'essayer de parler anglais, je me suis mis à rire. Et il a dit à ma grand-mère « Ton petit-fils est un imbécile. » Voilà. Donc c'était dit, donc je veux dire que après, donc...
Et donc ça jette un froid un peu entre
ben vous. Voilà. Et donc je me suis rendu compte que quand quelquefois ils se disputaient, eh bien, après, ma grand-mère était encore plus gentille avec moi.
Avec
donc,
vous.
Je trouvais des moyens qui se disputent. J'arrivais à comprendre ça, c'est bizarre, non ? Ouais. Peut-être que c'est parce que ma grand-mère aussi était très psychologue et qu'elle disait des choses par rapport à ses clientes. Enfin bon, enfin il est mort quand j'avais 9 ans aussi. Décidément, c'est une année assez déterminante, puisque pour en revenir à votre question, c'était par rapport à son influence, elle, par rapport aux vêtements. Évidemment que oui. Pourquoi ? Parce qu'elle était d'abord tout habillée en noir. Je découvrais chez elle des voiles de deuil, mais je trouvais ça magnifique. D'ailleurs, j'en ai racheté d'ailleurs aux puces là dernièrement et tout. Je trouve ça absolument magnifique. Ils ont un gaufrage, une transparence et un gaufrage qu'on ne peut plus refaire maintenant. C'était fait vraiment comme une espèce de plissage et tout. Enfin, c'est absolument somptueux. Elle avait des chapeaux avec des plumes de paradis et puis elle avait un corset. Un corset. Et là, le corset, pour moi, ça a été la découverte. Pendant qu'elle allait faire des piqûres, c'était là où j'ouvrais la porte et je voyais cet objet avec des lacets, avec assez rigide, avec une couleur chair, saumon, on va dire, et qui était très étonnant. Et quand après avoir vu ça, j'ai demandé à ma grand-mère qu'est-ce que c'est, et elle m'a dit, ben tu vois, c'est orthopédique, c'est-à-dire c'est quelquefois c'est pour faire redresser. C'était aussi pour ça, hein, parce qu'il y avait les corsets orthopédiques. Tout ça c'est de l'orthopédie hein, en fin de compte. Mais c'était fait aussi pour avoir la silhouette. Alors ça a été donc pris par la mode, mais au départ c'était une orthopédie pour la colonne vertébrale et des gens qui avaient des problèmes avec les os. Et il fallait, alors elle prenait du vinaigre, elle avalait le vinaigre. Et elle avait donc à ce moment-là où elle avait mis le corset une espèce de suffocation. Donc l'estomac se resserrait et à ce moment-là il fallait tirer pour avoir la taille étranglée et tout. Donc c'était une espèce de chose que je ne savais pas de torture, mais qui était absolument fascinant et incroyable. Et c'est resté gravé à tout jamais quoi.
C'est plein d'images, plein d'images et d'odeurs et de.
Et plein d'odeurs, exactement, des odeurs, des images. Les images c'est aussi quelquefois quand j'étais seul, donc eh ben je regardais dehors les nuages. Et les nuages, si vous voulez, dans les nuages, j'arrivais à voir des visages. C'est drôle, hein. Et du coup, je pense que ça, cette espèce d'école naturelle, comme ça, en regardant d'observation, m'a fait voir des choses qui n'étaient pas. Et j'ai pris l'habitude de voir des choses qui n'existaient pas. Et comme ça, trouver des idées en croyant voir une chose et que ce n'était pas la réalité. Vous voyez ? C'est-à-dire une autre interprétation. C'est drôle, ça, d'ailleurs, parce que je crois vraiment que ça vient de là.
Et c'est super, parce que on sent que c'est toutes les rêveries d'enfants qui remontent en permanence, et d'enfants uniques, parce que les enfants uniques, ça peut rêver, ça a toute la place pour rêver, au fond.
C'est vrai que ça m'a absolument pas manqué, le fait de ne pas avoir de frère ni de sœur. Quand on me posait cette question-là, j'ai dit, mais non, pourquoi ? Je sais pas ce que j'ai perdu, mais je pense... maintenant me rendre compte de ce que j'ai gagné, en tous les cas. Tout ce monde que je me suis fait, en fin de compte, peu à peu, voilà, plein de rêves.
On va s'arrêter sur ces mots-là pour ce soir. Merci Jean-Paul Gaultier. On se retrouve demain et je vous souhaite une bonne soirée à l'écoute des programmes de France Culture.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Leila Djitli avec Jean-Paul Gaultier. À voix nue, réalisation Clémence Grosse, prise de son Mathieu Perrault, Raymond Albouy, documentation Anne-Lise Signoret, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.